Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 2h de l'après-midi. Écoutez, le monde changer, la France bouger, c'est, vous le savez, ce que nous faisons chaque jour, mais cela va encore plus vite depuis le début de l'épidémie de coronavirus, grâce à vous, hein, qui faites preuve de solidarité, d'imagination pour sortir de cette crise sanitaire. Exemple avec cet élan dans tout le pays, cette mobilisation autour de la problématique des masques. Pour en parler et vous montrer l'étendue du mouvement, elle est là, fidèle au poste, à mes côtés, comme chaque jour, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Salut Raphaël, bonjour à tous. À vos côtés, de loin, bien sûr.
De loin, en télétravail, évidemment.
Vous êtes confinés. Chez vous, je suis chez moi et nous sommes là pour vous.
Et oui, et on vous attend, vous aussi, hein, qui êtes de l'autre côté de votre poste de radio pour réagir, 3921 et sur Twitter, hashtag radio ouverte, bien sûr. Vous le savez, et vous l'avez peut-être entendu dans le grand journal tout à l'heure, l'AFNOR, et c'est une information Europe 1 qui est l'organisme en France chargé des normes, publie aujourd'hui même un document. Il est sorti il y a un peu moins d'une demi-heure maintenant. C'est une sorte de guide qui va nous permettre de connaître la marche à suivre pour fabriquer ce que l'on appelle aujourd'hui des masques barrières. L'idée, c'est de faire une sorte de trame que chacun puisse comprendre et appliquer pour réaliser un masque qui protège vraiment. C'est une première version du document, il y en aura d'autres, mais déjà derrière, les choses sont en train de se mettre en place, notamment dans l'industrie textile. Bonjour Yves Dubief.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union des industries textiles. Vous êtes justement en contact avec l'AFNOR. On a vu beaucoup de bonne volonté d'ateliers se porter volontaires pour fabriquer, mais il faut respecter des règles pour que ce soit réellement une protection. C'est ce que vous, vous attachez à faire.
Tout à fait. On travaille avec la DGE, la DGA, qui est la Direction Générale de l'Armement, la Direction Générale de la Santé, afin d'être tout à fait en fabrication de masques en conformité avec ces différentes normes et qui soient à usage de masques barrières, comme vous l'avez dit.
Plusieurs prototypes ont été testés avec effectivement l'aval de la DGA. Il faut répondre à un cahier des charges qui est très précis pour que ce ne soit pas un masque inefficace, que les gens ne croient pas finalement être protégés alors qu'ils ne le sont pas.
Oui, c'est des masques anti-projection, donc qui protège les personnes extérieures à l'individu qui sont rencontrées par cet individu, et c'est des normes tout à fait très sévères que nous respectons. Et aujourd'hui, il y a dans cette filière un formidable élan entre le textile, les fabricants de matières, les confectionneurs, les gens de la mode et du luxe, qui permet d'avoir aujourd'hui une capacité d'un peu plus de 500 000 masques par jour.
Oui, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir équiper les caissières, on en parlait tout à l'heure, les postiers, les éboueurs, tout le personnel qui n'est pas un personnel soignant, mais qui travaille et qui est en contact avec l'extérieur.
Tout à fait, toutes ces personnes qui sont dans la grande distribution, dans l'industrie pharmaceutique, dans les transports, et qui permettent à la France de continuer à vivre.
Les entreprises qui souhaitent adhérer au projet sont, je crois, invitées à aller sur un site, c'est bien ça ?
Oui, le site Masque CSF Modelux, afin de référencer soit leur offre de matière, soit leur capacité de confection. Et tout ça permet de mettre en relation les différents intervenants et d'être le plus efficace possible. Il y a des initiatives par région, comme dans le Grand Ouest, comme dans le Grand Est, comme en Rhône-Alpes, comme dans les Hauts-de-France et dans d'autres régions. C'est ce qui permet d'être le plus efficace possible. Et au-delà des masques, on réfléchit aujourd'hui à mettre en place une filière pour les blouses et pour les charlottes.
Oui, ce sera l'étape d'après qui va venir très vite, effectivement, parce que là aussi, il y a des besoins conséquents. Justement, Elisabeth, est-ce qu'on sait combien de masques sont nécessaires aujourd'hui pour faire face à cette crise ?
Il faut 24 millions de masques de protection par semaine. Début 2020, la France possédait 150 millions de masques. Et pour vous donner une idée, en 2010, on en avait 992 millions. Et heureusement, le ministre de la Santé a annoncé samedi dernier 250 millions de masques. Quand je parle de ces masques, ce sont les fameux masques FFP2. Et on va le voir pendant toute la durée de votre émission. Les initiatives se multiplient pour la fabrication de tous les masques.
Alors vous restez évidemment avec nous parce que justement on était en train de parler de ceux qui se mobilisent. Ça s'applique à Vanderschouten dans la région lilloise. Bernard Vanderschouten, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous fabriquez, vous, depuis trois générations du linge de maison, mais je crois que le 17 mars, vous avez reçu un coup de fil de votre filiale, Nord-Linge, qui travaille beaucoup avec les EHPAD notamment, et qui vous a dit, est-ce qu'on peut produire rapidement des masques ?
Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. On a une filiale Nord-Linge qui, dans le métier de fournir les établissements de santé, en particulier les EHPAD, et on a eu, à partir de mardi dernier, des appels au secours à une fréquence incroyable. Hein. Toutes les 10 minutes, le téléphone sonnait pour nous demander des masques. Donc on s'est très vite mobilisé, on a regardé ce qu'on pouvait faire, et il se trouve qu'on a du stock chez nous de produits qu'on a pensé pouvoir utiliser pour fabriquer ces masques, puisqu'on fait du linge de lit. Et donc on a très vite mis au point avec nos équipes des premiers prototypes de masques qu'on a envoyés très rapidement, ça date de mercredi dernier, à la DGA, dont Yves parlait il y a quelques minutes, hein, oui. La Direction Générale de l'Armement.
De l'Armement.
Voilà, on a eu un feu vert dimanche après-midi, comme quoi tout le monde travaille en ces temps compliqués. Excusez-moi, faut que je coupe mon téléphone.
Ah bah, vous voyez, on est en direct, hein. on vit oui. Tout ensemble. Et alors du coup, vous avez dû faire trois prototypes, c'est ça, avant de parvenir au bon résultat, je crois.
On a fait deux prototypes la semaine dernière. On a eu un premier accord dimanche après-midi sur un premier prototype avec des modifications qui nous ont été demandées mineures. On a renvoyé lundi soir un troisième prototype et on a eu l'accord ce matin de la DGA, hier matin plus exactement, oui. Pour pouvoir lancer cette production. Je ne vous cache pas qu'on avait déjà commencé à la lancer. On devrait pouvoir aujourd'hui en fabriquer en rythme de croisière à peu près 20 000 par semaine. Mmh. Alors j'ai entendu les chiffres que vous venez de citer tout à l'heure, c'est une goutte d'eau évidemment dans l'océan de besoins qui commencent à être répertoriés dans toute la France. Mais bon, on contribue. Je voudrais quand même dire, il y a trois sujets qui nous préoccupent de manière importante là-dedans.
Oui.
C'est le premier, c'est il faut qu'on ait le personnel pour pouvoir fabriquer ces masques.
Donc il vous faut des bras, c'est ça.
Je profite de votre antenne. Pas tellement les bras, nous les avons, puisqu'on a reconverti une partie de notre atelier de confection à la fabrication de masques, puisque nos commandes de linge de maison se sont arrêtées totalement il y a maintenant une semaine. Mm-hmm. Donc, il faut que les gens, et j'en profite pour les remercier, je suis très admiratif devant leur courage, leur mobilisation sur ce projet. On est allé très rapidement. Donc, c'est le premier problème, il faut que les gens soient là. Et pour l'instant, tout va bien, merci, on n'a pas de malade chez nous et on prend beaucoup de précautions,
Bien sûr.
Tous les gestes barrières sont vraiment mis en œuvre chez nous. Le deuxième souci, c'est le problème du transport. On a des messages plus ou moins pessimistes sur la réduction de l'activité des transporteurs, ce qu'on peut comprendre par ailleurs, hein, puisque eux-mêmes ne sont pas toujours protégés. Donc ça, c'est aussi un vrai souci. Il faut que le transport puisse nous permettre de recevoir nos marchandises, et c'est mon troisième point, et surtout de pouvoir les expédier. Et le troisième point, donc, c'est les matières premières. Il faut qu'on ait du stock. Hein, on n'a pas tout le stock à 100% chez nous. On a du stock jusque mardi ou mercredi prochain. On attendait une livraison ce matin qui n'est pas arrivée, mais on espère en retrouver une pour le début de la semaine prochaine. Mais encore une fois, si les transports ne fonctionnent pas, ça va être difficile. Voilà.
Oui, effectivement. Donc, c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place pour arriver à fonctionner et évidemment pour le bien de la collectivité. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je précise que DGA, j'ai fait une petite erreur, c'est bien Délégation Générale pour l'Armement et non pas Direction Générale de l'Armement. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, 13h15.
Europe 1.
Vous l'avez vu, hein, de grosses entreprises comme de plus petites mettent leurs bras, leurs outils au service de la production massive de masques dans tous les secteurs. On va continuer à les passer en revue ensemble. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Ce qui est formidable dans cette période difficile, c'est de voir que chacun essaie d'apporter sa contribution à la guerre, hein, parce que c'en est une qui est engagée dans la lutte contre le coronavirus. C'est ce que vous faites d'ailleurs, Ludovic Ouvry, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Ouvry et votre mission habituelle, c'est de fabriquer justement tout ce qui est système de protection pour les soldats, notamment pour les gendarmes, pour les pompiers, mais aussi pour tout un tas d'autres professions. L'AFNOR est également, et on en parlait tout à l'heure, en contact avec vous. Comment est-ce que vous avez revu justement votre production ?
Ben, si vous voulez, nous, notre métier, c'est la protection contre ce qu'on appelle ces agents chimiques de guerre, la protection NRBC.
NRBC.
Nous avons à la fois les compétences pour tout ce qui est, puisque je fabrique des masques à gaz, donc vous voyez le masque à gaz en caoutchouc avec deux oculaires qui fait peur, mais derrière vous avez des bancs d'essai, vous avez des dossiers techniques que j'ai pu réadapter, donc on a su très rapidement adapter nos produits, les tester suivant et monter un dossier technique étoffé. Et bien sûr, pour monter ce dossier technique, s'appuyer sur à la fois des recommandations qui émanent de la Délégation Générale de l'Armement, de laboratoires spécialisés et de l'AFNOR qui publie ce jour, si je suis bien informé, un guide sur les exigences minimales.
Ils étaient en direct avec nous et c'est paru, ça y est, depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant.
Exactement. Et donc, on suit toutes ces recommandations qui nous ont permis de mettre au point le dossier technique et la notice d'utilisation du produit et qui est en cours de fabrication aujourd'hui.
Alors, vous êtes, et vous l'avez dit, habitué à travailler avec tout ce qui est chimique, nucléaire, bactériologique, donc protection haute sécurité. Vous avez commencé la production, je crois, combien de masques ? 8000 masques et vous réfléchissez à monter jusqu'à 100 000, c'est ça, d'ici 3 semaines ?
L'objectif, il est de 100 000 pour la fin du mois d'avril, exactement.
Oui. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour arriver à ce chiffre ?
Alors, après avoir travaillé sur l'adaptation des produits par rapport à notre expérience, on adapte toute notre supply chain, nos réseaux, nos partenaires industriels pour fabriquer ces 100 000 masques d'ici la fin du mois prochain.
Oui, parce que le masque dont vous nous parliez, hein, le fameux masque qui fait peur, ça c'est le masque que vous avez l'habitude de fabriquer. Là, vous avez aussi un petit peu adapté les choses. Vous faites un demi-masque également ?
Aujourd'hui, on fait vraiment un demi-masque en textile à partir des textiles qu'on connaît très bien qui sont utilisés dans les tenues de protection NRBC.
Qui sont des textiles non tissés, c'est ça ?
On a choisi une association d'un non tissé avec un tissu. Et on a la chance d'avoir sur ces deux produits une batterie de résultats d'essais extrêmement importante, à la fois pour la protection contre le sang, contre les éclaboussures, contre des aérosols biologiques, qui nous a permis de monter le dossier technique très vite. Donc c'est pour la première fois, nous fabriquons non pas un masque en caoutchouc, mais un masque en textile qui sera lavable. Et on a pu tester, on a pu faire les essais de lavage et vérifier ça sur nos bancs de test qui sont finalement un poumon artificiel qui simule la respiration.
Oui, c'est très intéressant. Je voudrais que vous restiez avec nous. Elisabeth, il y a énormément d'initiatives, je disais, de grosses entreprises, mais aussi de plus petites. Vous avez trouvé une habitante du Val d'Oise qui fabrique chez elle des masques en tissu.
Oui, ça se passe à Daumont pour les gendarmes et pour les caissières. Elle a dit, moi, je vais confectionner moi-même des masques. Elle s'appelle Anne et elle les distribue gratuitement à ceux qui en ont besoin. Elle veut donc équiper les caissières en attendant de recevoir ceux qui ont été commandés. Alors, c'est masques ne sont pas aux normes, hein, ce ne sont pas les FFP2, mais ils permettent de ne pas laisser échapper des postillons ou autres. Elle conseille de mettre à chaque fois un mouchoir ou une compresse stérile entre les deux bandes pour davantage d'efficacité. Elle en a donné au supermarché de sa ville et elle les distribue gratuitement. Donc petites initiatives, hein, on les voit, qui peuvent faire beaucoup
d'importantes. Exactement. Ouais. Vous restez avec nous. On va aussi rejoindre Geneviève Fora qui gère la papeterie Pradumas à Couze et à Saint-Front. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Oui, vous fournissez en général les industriels et les laboratoires, puisque vous fabriquez ce qu'on appelle le papier coton et le papier charbon. Quelle est la particularité de ces papiers et en quoi est-ce qu'ils peuvent être utiles aujourd'hui dans la fabrication des masques ?
Alors, le papier charbon, nous le vendons à des entreprises pour la filtration de l'air, pour la filtration de l'eau, pour la filtration de liquide, parce que c'est un antibactérien et reconnu comme tel, en galvanoplastie pour désinfecter les bains. Mais nous vendons à des entreprises, uniquement à des entreprises.
Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous, d'avoir ces bandes que vous allez prédécouper, c'est ça, pour qu'on puisse ensuite fabriquer des masques ?
Oui. Nous avons eu la visite du député Delpont et de sa suppléante qui nous ont proposé de tester nos papiers. Et je pense qu'en ce moment, ils sont... il y a une recherche d'homologation, d'après ce que j'ai entendu dire. Et donc, pour l'instant, nous pouvons proposer ce papier, le papier coton, pour mettre contre la bouche et par-dessus un papier charbon. Mais c'est très, très artisanal, fixé sur les côtés avec un élastique qu'on accroche de chaque côté, voyez, avec une agrafeuse.
Oui, pour pouvoir distribuer, si j'ai bien compris, dans les pharmacies de manière locale, hein.
Et voilà, et tous ceux qui en veulent, ils peuvent se débrouiller à monter le masque avec la partie extérieure en charbon, intérieure en coton, et ça fait une barrière. Et mettre un élastique ou une attache derrière, quoi.
Voilà. Elisabeth, on voit les initiatives.
C'est un dépannage devant l'urgence, vous voyez.
Oui, c'est important. Il faut des idées, des solutions, des initiatives comme la vôtre, hein, parce que tout est bon à prendre. On est tous en train de réfléchir ensemble à la meilleure manière de se protéger. Elisabeth, vous avez trouvé aussi des maisons de couture qui confectionnent des masques.
Oui, on parle textile et justement la maison Le Jabi, vous savez, la maison de lingerie Le Jabi. En ce moment, les mains expertes des couturières de la maison Le Jabi travaillent à la confection des masques pour les hôpitaux de Lyon et sa région. Ils sont issus du coton qu'elles utilisent pour les maillots de bain et ils sont réalisés avec les élastiques Borgom des culottes de la collection de la lingerie Le Jabi. Et ce sont donc des milliers de masques qui vont être fabriqués dans les ateliers lyonnais.
Ludovic Ouvry, vous êtes toujours avec nous. On a le sentiment finalement que ce sont des filières qui n'avaient pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble, qui sont en train de se mettre autour d'un même projet, hein, pour le bien commun.
Oui, on observe à la fois dans nos propres équipes une mobilisation de l'ensemble des départements de la société et du personnel sur ces objectifs communs, qui est de participer à l'effort de guerre que vous évoquiez, et ça fait rencontrer des métiers qui ne se rencontraient pas forcément. Un des confectionneurs sur lequel je m'appuie aujourd'hui est plus fabricant dans les tentes, hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de confection de textile, mais il a su très rapidement adapter son outil pour répondre avec nous aux besoins.
Oui, vous pouvez le citer d'ailleurs, hein, parce que on peut les féliciter, ces gens qui sont de bonne volonté et qui travaillent avec nous à la confection de ces nouveaux outils pour nous permettre de gagner cette guerre, on va dire.
Oui, donc on citera la société El Pétante, on peut citer la société Rostin qui est plus dans la fabrication des gants, ou la société Getex qui est plus dans l'habillement.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va continuer à regarder quelles sont vos initiatives justement pour fabriquer des masques aujourd'hui en France.
Europe 1.
Et vous avez tous entendu parler des masques Décathlon utilisés en Italie. Eh bien c'est une piste, mais vous allez voir, pas la seule. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
On a tous vu sur les plages l'été ce masque nouvelle génération, hein, qui prend tout le visage, conçu par Decathlon. Beaucoup d'entre vous l'ont adopté. Et un ingénieur italien a eu l'idée de l'adapter pour qu'il soit utile aux soignants et aux malades pendant cette crise du coronavirus. Bonjour Espen Ayer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de la marque Subéa, qui est la marque de plongée de Decathlon, cette marque qui a produit ces fameux masques dont je parlais, les marques Easy Breath. Vous vous attendiez, vous, à ce que ce masque soit finalement utilisé aujourd'hui pour venir en aide aux soignants et aux malades ?
Non, bien sûr que non. C'est bien que ce masque, il a été conçu pour la pratique du sampling. Et en aucun cas, personne chez Decathlon pouvait s'imaginer que ce masque puisse avoir une autre utilité.
Oui, sauf que vous avez constaté assez vite, finalement, une demande croissante pour produire ces masques. Je crois que les marins-pompiers de Marseille vous en ont demandé. Ce ne sont pas les seuls, d'ailleurs.
Hein. Non, exactement. On est très sollicité aujourd'hui. C'est une réalité. Sollicité à la fois par des organismes hospitaliers ou les marins de Marseille, comme dont vous parliez, mais on est aussi beaucoup sollicité par des universités, par des écoles d'ingénieurs, par des organismes français qui veulent s'appuyer sur ce qui a été fait en Italie pour continuer à développer ce produit et servir au mieux la population française.
Oui, c'est-à-dire que ce masque, il peut être adapté. Alors évidemment, pas question de le bricoler à la maison. Hein. Vous dites attention, il faut laisser faire les spécialistes.
Oui, exactement. Ce masque, il a bien été conçu pour le snorkeling. Et moi, j'invite vraiment tous les particuliers à ne pas le modifier parce que cela peut avoir une incidence sur son fonctionnement. Pour autant, c'est un masque qui, de par sa forme, peut aider. Et moi, je laisse le soin, encore une fois, aux médecins et aux spécialistes de travailler là-dessus pour définir s'il peut servir à tout le personnel médical en France.
Oui, ça veut dire qu'il va falloir commencer à travailler sur une valve qu'il va falloir venir rajouter ou pour pouvoir modifier ce masque tel qu'il est conçu aujourd'hui.
Bah ça, c'est ce qui a été fait en Italie. Donc une entreprise italienne avec un professeur de médecine donc italien qui ont trouvé une solution pour permettre d'adapter donc ce masque à une utilisation médicale, donc avec des flux d'oxygène en pression.
Aujourd'hui, vous chez Decathlon, quelle est finalement la ligne? Comment est-ce que vous allez participer à cet effort qu'on voit se dessiner en France autour de ces masques?
Alors nous, notre position, elle est assez claire. Elle est responsable et solidaire, ce qui veut dire qu'on essaie d'être responsable en donnant le maximum d'informations qu'on peut avoir techniques par rapport à ce produit, sans pour autant dépasser le cadre qui est le nôtre. On est un concepteur de produits sportifs et on veut pas aller sur un domaine qu'on maîtrise pas. Et pour autant, bien sûr, on a envie d'être solidaire parce que, bien évidemment, on a envie d'aider quand on peut le faire. Et aujourd'hui, tous les décathloniens sont mobilisés pour essayer de faire en sorte que ce produit puisse avancer et servir la population. Donc, encore une fois, on a rendu disponibles nos dessins industriels pour que des laboratoires, pour que des entreprises puissent développer cet embout pour permettre son adaptation.
Son adaptation, effectivement, hein, comme vous l'a demandé, par exemple, le centre médical de Melun. Alors justement, l'impression 3D, c'est son métier. Bonjour Mathieu Régnier.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Dagoma. Vous êtes déjà venu nous voir dans La France Bouge, évidemment. Vous êtes
absolument, oui.
Déjà en train de travailler hein, sur les visières, vous, pour les hôpitaux à Paris, à Lille, mais pas seulement. Comment ça se passe? On vous donne une marche à suivre et vous fabriquez?
Écoutez, on essaye de travailler avec la région et l'ARS notamment pour déterminer la marche à suivre. Pour l'instant, on y va de notre bonne initiative. On a validé avec une grande communauté de makers qui ont eux-mêmes validé avec certains médecins, etc., un modèle qui semble convenir. Et donc, on s'est lancé dans la production là, grâce à l'aide notamment du groupe de makers Shield Entraide Covid-19 qui est mené par Yann et Anthony. Et donc voilà, ça suit son cours. Nous, on a lancé notre vraie force de production depuis hier et c'est parti.
Ce sont les médecins et les autorités qui valident en fait les prototypes que vous avez soumis? C'est comme ça que ça se passe?
C'est l'idée, c'est l'objectif. Pour l'instant, il n'y a pas encore une validation officielle et tamponnée. C'est ce que moi, clairement, Dagoma attend de la part des autorités compétentes. Je suis certain que ça va arriver. En attendant, les masques et les visières de protection anti-projection permettent déjà d'aider des centaines de personnes. À partir de demain, ce sera déjà des milliers. Et la semaine prochaine, ce sera des dizaines de milliers.
Oui, vous dites des milliers parce que la production, et vous l'avez précisé, est lancée depuis hier. Et l'objectif, c'est 15 à 20 000 visières, c'est ça?
Oui, c'est ça, par semaine à peu près. Ce sera la capacité de prod de Dagoma, en tout cas pour l'instant. Et on va voir pour continuer d'augmenter ça en fonction des demandes et des besoins.
Alors, vous êtes aussi en contact avec le ministère des Armées ou pas pour produire à plus grande échelle? Est-ce que c'est quelque chose? On parlait tout à l'heure de la DGA.
Alors, on est en contact avec certaines forces des armées, en effet. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé. On est en train de travailler sur plusieurs hypothèses. Et puis... et puis on vous en dira plus dès que ce sera validé. Pour l'instant, c'est encore au stade de prototype, mais en effet, il y a des discussions en cours.
Elisabeth, puisqu'on est en train de parler d'impression 3D, je crois que vous en avez trouvé des masques imprimés en 3D en Isère aussi, hein.
Oui, il y en a en Isère, effectivement. D'ailleurs, Jean-Luc Boujon, notre correspondant, nous en parlait hier dans la matinale. Ce sont des masques en matière souple qui ressemblent à du plastique, une matière antivirale, antibactérienne. Et cette matière permet de fabriquer une coque qui va prendre la forme du visage de la personne qui l'utilise. Ensuite, ils insèrent des filtres qui peuvent être changés régulièrement, ce qui rend ces masques réutilisables. Il y a une cagnotte qui a été mise en place sur Litchi. Des masques 3D pour la vie, c'est sur Litchi, pour financer l'achat de la matière première et ils sont partis pour en produire 200 par jour.
Mathieu Régnier, la suite c'est quoi? C'est aussi vous attaquer à d'autres produits? On parlait tout à l'heure des valves avec ce masque Décathlon, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager de faire?
Complètement, en fait l'impression 3D est très versatile, donc on aurait plaisir à faire autre chose si à un moment donné il fallait plus faire de visière mais il fallait faire autre chose, des valves par exemple pour respirateurs. En effet, on serait complètement capable d'en faire et d'ailleurs les temps d'impression seraient plus courts, donc on pourrait en produire encore plus par semaine.
Vous avez aussi mis, et c'est important peut-être de le dire pour les gens qui nous écoutent, une adresse à disposition des médecins qui ont besoin de vous.
Oui, exactement. En fait, sur le site dagoma3d.com, vous pouvez directement faire vos demandes de masques. En dessous de 50, on va rediriger vers la communauté de makers qui est en local, en ultra-local, partout en France et qui va se faire un plaisir de vous approvisionner. Et au-dessus de 50, jusqu'à plusieurs milliers d'exemplaires, mais Dagoma fait son maximum. Et puis, je sais qu'il y en a d'autres qui œuvrent déjà. Donc très bien, il faut qu'on soit vraiment tous ensemble dans cette démarche.
Vous avez raison de le dire et justement, on va accueillir Alexandre Grière qui est avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous êtes vous un particulier, vous avez mis votre imprimante au départ au service des soignants. Quand vous avez vu qu'il y avait un SOS sur Twitter qui avait été envoyé par une association qui gère un centre de soins, c'est comme ça finalement qu'a démarré l'aventure.
Oui, tout à fait. En fait, donc c'est samedi dernier, j'ai vu un tweet du centre À vos soins, qui est un centre de soins sur Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, où ils recherchaient du matériel supplémentaire pour pouvoir protéger leurs équipes, donc des gants, des blouses, mais aussi des lunettes de protection. Et quelques heures auparavant, j'avais vu l'initiative d'un designer suédois qui avait modélisé une visière 3D très très simple, qui est assez rapide à imprimer et qui on va dire très facile à monter, puisqu'elle ne nécessite pas beaucoup de matériel. Et je leur ai proposé cette visière, au moins pour tester. Après le premier prototype sorti aux alentours de samedi midi, ma femme qui est infirmière l'a testé, elle m'a dit moi effectivement je me verrais porter ce genre de matériel si ça peut me protéger. Donc j'en ai décidé d'en faire 6 pour l'équipe d'À vos soins. Qui sont venus les récupérer dimanche matin. Donc vous voyez, en moins de 24
oui,
heures, on avait
vous
déjà...
Vous pouvez imprimer 3 masques en 2h40, c'est ça, en
voilà,
moyenne?
Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, effectivement, en optimisant les temps d'impression, les vitesses et la qualité, donc là, effectivement, on descend la qualité de l'impression pour avoir un rendu plus rapide. Sur mon imprimante, j'arrive à en imprimer 3 en même temps en 2h40. Certaines personnes qui ont rejoint depuis notre mouvement de maker peuvent être plus rapides, d'autres un peu plus lentes, mais au moins on arrive à produire quelque chose.
Oui, et alors vous avez réussi à mobiliser autour de vous au départ une trentaine de personnes, et puis la belle histoire c'est qu'il y a une entreprise de Saint-Nazaire qui est venue vous rejoindre dans le projet.
Oui, tout à fait. Donc, lors de la genèse de l'initiative, on a le Blue Lab, qui est le Fab Lab basé sur Saint-Nazaire, qui nous a rejoint pour contacter d'autres makers qui sont, on va dire, connus du Blue Lab. Et une start-up de Saint-Nazaire qui s'appelle Third nous a rejoint aussi sur le projet pour prendre en charge les commandes des hôpitaux ou des centres de soins qui sont un peu plus volumineux et qui demandent beaucoup de production. Donc là actuellement, les makers particuliers plus Third, on est à 2500-3000 visières qui ont été sorties et distribuées aux différents professionnels de santé aux alentours de Saint-Nazaire.
Oui, on voit que tout le monde se mobilise. On était avec Dagoma il y a quelques instants, Décathlon juste avant. C'est vrai que on a le sentiment que tout le monde se met ensemble pour travailler dans le même sens. Elisabeth, je crois que d'ailleurs la Commission européenne a lancé un appel à tous les acteurs de l'impression 3D.
Oui, ils ont un rôle à jouer dans cette crise. Et d'ailleurs, le monde de l'impression 3D se mobilise pour apporter des solutions. D'ailleurs, ça avait commencé, on vient de l'écouter, ça avait commencé en Italie avec le cabinet d'études italien qui avait donc permis la fabrication en urgence des valves de respirateurs pour un hôpital en Lombardie en utilisant l'impression 3D. Donc il y a des solutions qui émanent de tous les acteurs de l'impression 3D.
Et puis en Corse aussi, vous avez trouvé un Fab Lab qui fabrique des masques.
Oui, le Fab Lab Corti, ça se prononce comme ça, c'est à Corté,
oui,
hein, c'est
oui,
un
oui,
labo.
Corté ou Corte,
qui,
oui.
Qui permet de réaliser des projets. Et donc au sein de ce Fab Lab, ils se sont mobilisés face au virus. Ils ont réalisé des prototypes de visières de protection anti-Covid pour les soignants. Les premiers résultats sont apparemment encourageants. Donc là aussi, on le voit, les solutions sont souvent locales.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct d'Agoma, Décathlon et la communauté de Makers du côté de Saint-Nazaire. Merci de participer à cet effort collectif. Il est 13h40.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Dans cette période de crise, vous le savez, toutes les bonnes volontés, toutes les forces vives sont les bienvenues. Bonjour Alain Moinard.
Oui, bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Paris-Saclay Hardware Accelerator. Et vendredi dernier, vous avez répondu à un appel lancé par le CHU de Caen pour produire vous aussi des masques à visière, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Et en fait, cet appel a été relayé par un média un petit peu incontournable de la 3D qui est 3D Native, représenté par Alexandre Martel. Et on a répondu à cet appel. Et dans le week-end, on a fabriqué en fait les premiers masques et surtout les livrer au CHU de Caen le lundi matin pour qu'ils puissent les éprouver, puisque c'était pour nous quelque chose d'important que ces masques soient validés, on va dire, par le CHU.
Alors du coup, ça s'est enchaîné assez vite parce que vous avez contacté HP, qui dispose forcément de nombreuses imprimantes. Et puis vous vous êtes mis en réseau avec Decathlon, dont on parlait, avec L'Oréal. Et finalement, chacun est venu apporter sa pierre à l'édifice.
C'est ça, en fait, une chaîne s'est formée très rapidement et naturellement. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait faire appel à HP parce que les imprimantes d'HP sont des imprimantes industrielles, et c'est celles dont on dispose, et que forcément, on n'était pas les seuls à en avoir. Et là, je remercie aussi Pascal Dumas et Nicolas Aubert de chez HP qui se sont mobilisés et qui nous ont apporté dans un premier temps 4 imprimantes à aujourd'hui, et puis demain une dizaine, et ce qui va nous permettre de faire de la production importante. Quant à Decathlon, puisqu'il était possesseur, lui, de machines, il a dit moi je vais suivre, et Julien Guilin qui est de l'Adlab Decathlon nous a même proposé en plus d'imprimer des pièces de s'occuper du transport de tout ça, et L'Oréal nous a fourni de l'ordre de 25 000 visières en plastique.
Ouais, alors on voit que c'est un élan commun finalement. Et alors ce qui est assez formidable, c'est quand on regarde les chiffres, parce que avec ce matériel vous pouvez faire 100 masques à la minute, c'est ça ?
Ah non, c'est pas ça. Non, non.
C'est pas ça ?
Là, on est sur la phase numéro 2.
Je me suis dit, c'est formidable, 100 masques.
Non,
là,
mais ça va arriver. En fait, là, on parle de la filière de la plasturgie. Les plasturgistes qui ont des grosses machines à injection, comme on appelle, eux, effectivement, peuvent sortir
un
masque toutes les 6 secondes. Voilà, c'est l'étape d'après. Cette étape, elle a un temps de latence avant de se mettre en route. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui existe et toutes ces petites innovations qu'on voit à droite à gauche ont besoin d'être. Nous, on sort à peu près 70 masques par jour par machine.
Oui, ce qui est déjà beaucoup. Donc l'étape d'après, c'est de se tourner vers l'industrie plastique, c'est ça ?
C'est ça. Alors on est en pourparler avec l'industrie plastique. J'étais ce matin en réunion avec les GIFAS. C'est donc toute la filière aéronautique avec des plasticiens. Et le but est de dire l'étape d'après, comment on fait pour effectivement pouvoir fournir rapidement des quantités de masques suffisantes.
Alors, on va demander peut-être à Plastipolis de nous répondre. Patrick Villermoz est avec nous. Bonjour.
Bonjour Madame Duchemin.
Merci d'être là. Vous êtes le directeur général de Plastipolis. Votre pôle de compétitivité va permettre d'identifier, si j'ai bien tout compris, les entreprises qui sont en capacité justement de produire. Vous en avez recensé combien à ce jour ?
Exactement, c'est exactement ce dont il vient de question de passer à gérer des capacités de production industrielle. Donc justement, c'est tout l'enjeu cette transition. On a dans la plasturgie plusieurs milliers d'entreprises en France. Dans notre réseau particulier qui est au départ plutôt dédié à l'innovation, plutôt à des enjeux moyen terme et qui est complètement mobilisé là sur la situation actuelle, on a plus de 200 entreprises. Beaucoup ont déjà reconfigurer leur système de production pour avec des mises en ligne de production pour faire des flacons, pour faire des, on a des entreprises qui normalement sont dans des industries automobiles ou des industries de l'emballage. Mm-hmm. qui produisent aujourd'hui des flacons pour les liquides hydroalcooliques, pour des éléments pour les masques. Mais effectivement, tout l'enjeu, c'était le point d'avant, et c'est de basculer vraiment sur les produits attendus en urgence.
Et quelque chose qui pourrait aussi, pardonnez-moi, mêler textile et plastique. Hein. C'est aussi ça l'idée.
Exact. C'est vrai que nos confrères du textile sont très largement mobilisés. Je suis très heureux d'avoir entendu l'Union des industries textiles tout à l'heure et ce qui a été travaillé avec la FNOR. Parce qu'on a besoin de. Effectivement, pour produire, il faut produire le bon produit, le produit pertinent. Et c'était, comme on est obligé d'aller très vite et que c'était des produits qui n'étaient pas produits en Europe et en France ces dernières années, il faut arriver à brouiller les étapes. Donc d'avoir un référentiel AFNOR dont l'annonce a été donnée dans votre émission, c'est tout à fait très très intéressant. Et puis voilà, mélanger des technologies, mélanger des savoir-faire. Donc effectivement, on a quelques exemples d'entreprises qui travaillaient jusque-là sur des produits autres, mais qui travaille sur des masques innovants qui pourraient avoir qui auront des propriétés antibactériennes ou antimicrobiennes et qui sont aujourd'hui dans des phases aussi de prototypage. Mmh. Avec un volet textile, avec des fibres et des matières de haute technicité, une conception globale. Oui.
On sait le faire, on a les moyens de le faire. Il faut effectivement maintenant que le cadre et le go, hein, finalement, si je comprends bien.
Exactement, et on a eu, c'est vrai que ça avance très vite, et la mobilisation est d'une manière générale est vraiment très impressionnante pour aller très vite, se faire homologuer. Et effectivement, la délégation générale pour l'armement est l'entité qui doit donner son aval. Donc on est avec des groupes d'entreprises autour de ça. Et combiner des technologies. Donc, il y a des questions avant de technologies de plasturgie pour faire de la production en grand volume, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de pièces par semaine. Mais aussi combiner les technologies d'impression 3D, dont il était question avant.
Alors, justement
pour d'autres catégories de produits.
Alors, justement, vous restez avec nous. On vient de Laurent Aubertin qui est en ligne également. Vous êtes le directeur des opérations chez EMC2. Bonjour.
Oui, bonjour.
Enfin, vous êtes à Nantes.
Merci de me donner la parole et de relayer notre initiative.
On est ravis de vous avoir. Toutes les initiatives, je vais y arriver, sont bonnes à prendre. Vous avez été sollicité, vous, pour recenser tous les équipements d'impression 3D, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, dans des échanges que l'on a eus avec notamment les services de l'État en région, mais également les ministères, la DGE, la DGA, on est amené à lancer une initiative qui vise à qualifier un listing de moyens de production, alors aussi bien en tant que machine que de matière disponible, et tout ça à travers notre réseau. Aujourd'hui, comme Plastipolis, juste avant, nous, on est un pôle de compétitivité sur les technologies de fabrication, on est multifilière et donc on touche effectivement un certain nombre d'acteurs industriels. Et on voit en fait aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui foisonnent sur les sujets pouvant impliquer l'impression 3D.
Initiatives privées notamment. Hein.
Oui, notamment. Et effectivement, des acteurs académiques, des particuliers, des Fab Labs, des start-up pour les masques, les respirateurs, les visières. Et toutes ces initiatives, en fait, elles ont vraiment une raison d'être. Pour autant, il faut aussi structurer les choses. Pour ça, c'est vrai que le ministère des Armées, notamment à travers l'Agence d'innovation de défense, a lancé un appel à projet dédié. Et il faudra ensuite, quand les solutions seront qualifiées, puis que l'on puisse démultiplier la production. Et c'est l'objectif en fait de notre liste, c'est d'avoir en amont identifié des moyens et des acteurs que l'on peut mobiliser. Et ouais, aujourd'hui,
on sait où est la force de frappe finalement pour l'activer.
Et aujourd'hui, on a près de 150 réponses d'acteurs, alors de tout ordre, mais près de 60%
des
intérêts.
Oui, parce que vous avez mis un formulaire en ligne, c'est ça, mardi.
Oui, c'est ça, que l'on trouve sur le site internet du pôle EMC2 et qui permet à chacun d'enregistrer d'une part les contacts qualifiés, parce que ça permet aussi d'aller plus vite, mais aussi d'identifier chaque typologie de machine et les quantités de matière disponibles. Aujourd'hui, on a référencé près de 530 machines d'impression 3D pour tout type de matière, plastique mais pas que, également des sujets métalliques. Ça représente aussi plusieurs tonnes de matière disponibles dans les entreprises. Parfois dans des grands groupes, des acteurs comme Airbus ou Naval Group ont leurs propres moyens et équipements. Et puis, il y a des acteurs aussi comme Dagoma, qui sont des spécialistes de la fabrication additive.
Et oui, c'était avec nous tout à l'heure.
Là, on a des machines importantes, ouais, tout à fait.
Ouais. Vous pourriez effectivement mettre des moyens en commun, Plastipolis, vous en parliez, EMC2. Ce sont des grosses machines qui permettent justement de rassembler un maximum d'initiatives. Vous pouvez travailler ensemble aujourd'hui.
Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, les réseaux, notamment les associations d'industriels, travaillent beaucoup ensemble. Au niveau des pôles de compétitivité, l'association française des pôles de compétitivité a mobilisé chacun des pôles pour aussi participer à cet effort de travail, notamment sur la fabrication additive. Mais c'est aussi le syndicat de la machine-outil, l'association française de prototypage rapide et genre d'acteurs. Tous les associations aujourd'hui d'industriels sont effectivement impliqués. Et puis, il y a aussi les initiatives des régions, notamment chez nous, en Pays de la Loire ou en Bretagne, qui visent à accompagner la structuration, la mise en relation entre les besoins et l'offre avec des marketplaces, par exemple en région Bretagne, ce qui a été fait.
Oui, c'est pareil pour vous d'ailleurs, Alain Moinat, si vous êtes toujours avec nous pour Paris-Saclay Hardware Accelerator. Je crois que vous avez le soutien de la région Île-de-France.
Exactement, on a le soutien de la région Île-de-France et on commence déjà nous à livrer nos premiers modèles. Et pour ça, pour que chaque hôpital ou autre puisse le faire, on a créé le site lesvisieresdelespoir.com de manière à ce qu'ils puissent tout de suite faire part de nos demandes et qu'on puisse nous se structurer derrière.
Oui, c'est important justement d'être en réseau et d'être en prise avec sa région, Patrick Villermoz. S'il est toujours avec nous, directeur général de Plastipolis, peut-être, non ?
Oui, bien sûr. C'est exactement ce format de mettre en mouvement tout l'écosystème régional et travailler en réseau au niveau national. Pendant l'émission, on a reçu une information des hôpitaux de Paris et de l'INSERM et de l'École centrale qui lance un appel sur un design de masque, un appel à aide à fabriquer la fabrication qu'on va relayer. Donc il y a l'appel des armées et aussi d'être en réseau au niveau européen. Vous parliez de Décathlon avec ce qui a été fait de manière très imaginative en Italie. On est aussi et on travaille avec nos confrères en Europe pour justement partager des bonnes pratiques, des idées d'innovation et pour aller vite et bien.
Alors, je voudrais qu'on termine, Elisabeth, on aurait pu en recenser des dizaines et des dizaines des initiatives, mais peut-être en donner encore une ou deux, des grandes ou des petites, allez, comme vous voulez.
Alors il y a des initiatives, les couturiers solidaires du Sud, c'est un mouvement qui s'est créé dans le Sud pour créer des masques en tissu. Là aussi on le voit, c'est le collectif de la filière mode FASC a lancé le mouvement, les couturiers solidaires du Sud. Eux, ils structurent toutes les initiatives de la région pour fournir des masques en tissu au personnel des EHPAD, des cuisiniers qui travaillent dans les collectivités. Une première série de 2000 masques là est en cours de fabrication. Donc voilà, sinon vous avez aussi des grands noms comme Kering aussi qui se lance dans la fabrication de masques. Ils ont annoncé que les maisons Balenciaga, Yves Saint-Laurent vont donc se lancer dans cette fabrication, tout dans le respect des mesures protection sanitaire évidemment les plus strictes. Une fois qu'ils auront été homologués par les autorités, 3 millions de masques chirurgicaux, et quant à la marque Gucci, elle va produire plus d'un million de masques et 55 000 blouses qui, elles, seront distribuées en Italie.
Merci à tous d'avoir été avec nous, évidemment, pour parler de cette fabrication des masques. Et je suis sûre qu'on va encore découvrir de nombreuses initiatives grâce à vous et à votre solidarité. Europe 1. Et vous restez avec nous, bien sûr, jusqu'à 14h. On va retrouver l'avocat d'Europe 1 et vos questions. A tout de suite.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et comme chaque jour, juste avant 14h, on retrouve l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez, bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
On va répondre aux questions des auditeurs posées au 39-21 bien sûr, mais aussi sur le hashtag Radio Ouverte qui continue. Vous pouvez vous en emparer et venir poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On essaye évidemment d'y répondre. On a Stid28 qui nous dit « Roland, pouvez-vous parler des personnes qui ont vu leur nouveau contrat reporté suite au Covid-19, qui se retrouvent sans rien, plus d'indemnité de Pôle emploi parce qu'ils ont démissionné pour avoir ce nouveau contrat ? Ce cas représente un nombre très important de personnes. »
C'est vrai, c'est une situation extrêmement préoccupante. Toutes les situations n'ont pas évidemment encore été abordées très précisément au cas par cas. Mais alors, moi j'ai une idée, enfin, pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail suite à une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle ou même une période d'essai qui n'a pas été validée, en vérité, doivent s'inscrire à Pôle emploi tout simplement, c'est-à-dire qu'ils vont venir s'inscrire à Pôle emploi, même d'ailleurs pour celles qui entrent sur le marché du travail et qui recherchent un emploi, là ils auront droit à des allocations chômage avec les conditions que l'on connaît, à savoir est-ce qu'ils ont bien travaillé 6 mois au cours des 2 dernières années ou au cours des 3 dernières années s'ils ont plus de 53 ans. Et ils vont devoir réactualiser chaque mois, là pour la première fois d'ailleurs le 28 mars, leur situation. Chaque mois en ligne, ils vont le faire. Il n'y aura pas de difficulté pour cela, où ils vont téléphoner au 39-49. Donc a priori, pour celui qui a perdu, qui a démissionné et qui était en passe de reprendre ce nouvel emploi, eh bien il s'inscrit à l'heure actuelle sur Pôle emploi.
Alors voilà pour Stid28. On a une autre question, toujours avec le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. C'est Nicolas qui nous dit « Un employeur peut-il sanctionner un salarié qui abuse de son droit de retrait ?»
Oui, c'est une grande question qui arrive très fréquemment par les employeurs qui trouvent qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés qui ne peuvent pas être en télétravail, beaucoup de salariés qui se retrouvent dans une situation où pour la conduite de l'activité économique et pour les besoins, d'ailleurs de les besoins premiers de la collectivité, refusent aujourd'hui de travailler. Donc le droit, et d'ailleurs le droit spécifiquement rappelé même en période de Covid-19, dit bien que le salarié peut se retirer de son poste s'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé ou pour sa vie. Et d'après les données épidémiologiques aujourd'hui qui sont disponibles, il nous est dit que seul un contact étroit avec une personne qui a déjà été contaminée par l'inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d'éternuement ou de toux par la personne contaminée est de nature à exposer le salarié à une contamination. Donc le respect des mesures barrières par l'employeur, la désinfection, les temps de pause, bon, encore une fois pour se laver les mains, sont de nature à réduire très fortement le risque d'exposition. Et si l'employeur, si le salarié peut rapporter la preuve que l'employeur n'a pas pris toutes ses précautions, oui, ce droit de retrait peut être exercé. Mais si l'employeur a bien mis en place toutes ces mesures de précaution, ce droit de retrait peut être à un moment donné déclaré abusif. Alors évidemment, c'est pas maintenant qu'on va régler ce problème, mais ce problème sera réglé un peu plus tard, au moment où le confinement s'arrêtera.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, qu'on retrouve évidemment dès lundi, juste avant 14h. Merci à vous, Elisabeth. On se dit à lundi.
Merci, Raphaël, et portez-vous bien.
Portez-vous bien également. On parlera de comment occuper nos enfants pendant le confinement. Vaste débat.